14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
On évoque le polyamour aujourd'hui avec Arthur Vernon qui est avec nous, auteur de ce livre La vie, l'amour, le sexe aux éditions Tabou. Vous êtes également l'auteur de ce film qui est sorti en DVD, Les filles d'Ève et du serpent. Dans ce film, vous essayez de nous expliquer quels sont les fantasmes féminins, Arthur Vernon. Voilà. Et Isabelle Brouet est toujours avec nous. Vous êtes la réalisatrice de cette fiction Lutine, où vous évoquez justement ce couple qui s'essaye au polyamour. C'est un film documentaire, on pourrait dire, avec une forme un peu particulière, voilà. Et vous pouvez voir ce film. Il y aura une diffusion le 29 septembre à Paris, dans le 11e, au Grosse Batte.
Si ouais. Je peux réagir,
oui, je vous en
c'est
prie,
plus
bien sûr.
Une comédie qu'un documentaire.
Oui, c'est vraiment drôle. C'est vrai que c'est drôle.
Bah,
oui.
C'est une fiction. C'est l'histoire d'une réalisatrice qui n'a pas tourné depuis 10 ans. Donc c'est une autofiction, je joue le personnage principal, qui décide de tourner un documentaire sur les relations plurielles, les amours pluriels. Mais le fil conducteur du film est l'histoire de cette réalisatrice et de son compagnon. Donc c'est vraiment une fiction dans laquelle vient s'insérer le documentaire qu'elle tourne, et au fur et à mesure elle embauche un comédien pour jouer le rôle de son amoureux. Donc c'est un mélange de fiction et de documentaire.
Oui, oui, Arthur Vernon, vous l'avez vu également. Oui. Moi je trouve en tout cas ce qui est très bien dans ce film Lutine, c'est que vous posez bien la question du polyamour avec ce que ça comporte comme risque et comme avantage, comme inconvénient. Oui, Arthur Vernon.
Oui, tout à fait. Et avec justement aussi une approche qui est peut-être un petit peu moins justement solaire, lumineuse, voire presque même militante, puisqu'on sent à chaque fois par rapport aux deux personnages qu'on sent un petit peu la douleur des personnages à chaque fois qu'ils vont être concrètement confrontés à des relations tierce de leur conjoint, du couple socle, du couple de base qu'ils forment. Donc ça permet effectivement d'avoir une réflexion très pratique sur le sujet, sachant que de façon amusante dans le film, ils y sont, la discussion elle a lieu parfois un tout petit peu après qu'ils se soient embrassés, après qu'il y ait déjà des choses. Donc on n'est pas totalement dans le concept d'une discussion qui a eu lieu de façon très très établie à l'avance, avec énormément de sérénité, puisqu'on sent qu'il y a déjà une petite forme de pression quand même sur chacun des personnages du couple. Ce qui, à titre très personnel et en dehors du film, je ne recommande pas forcément. Je pense qu'il vaut mieux d'abord avoir une discussion extrêmement sereine plutôt que de sentir une espèce de petite épée de Damoclès traîner au-dessus de la tête.
Bon, en tout cas, film est une comédie, donc effectivement, c'est l'histoire du personnage qui se prend les pieds dans le tapis.
C'est le cas de le dire.
Mon idée était vraiment d'avoir que les gens dans le documentaire soient positifs, et du coup, ben, la fiction vient dire oh, c'est pas si facile que ça. Il y a la théorie d'un côté, la pratique de l'autre, et donc je voulais qu'on puisse en parler sans faire du prosélytisme.
Voilà, et c'est pour ça que je recommande ce film Lutine, pour ceux qui veulent un peu mieux comprendre les risques et les avantages du polyamour. Joanne est avec nous. Joanne, vous êtes en couple. Bonjour, merci de prendre la parole sur Sud Radio.
Oui, bonjour Brigitte, merci de me recevoir, et puis bonjour à vos invités également. Oui, je vous appelle vraiment dans un état en fait de confusion et de tristesse en fait. Alors, je ne sais pas trop s'il s'agit de polyamour, de libertinage. En tous les cas, effectivement, je suis en couple depuis seulement le mois d'avril. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui je pensais donc partager une relation faite de fidélité, et d'exclusivité. Oui. Et valeurs auxquelles je tiens énormément et qui sont, vraiment une partie intégrante de ma vie. Et c'est ma façon de vivre, effectivement. Quand j'ai quelqu'un dans ma vie, je ne regarde que cette personne et je n'ai besoin que de cette personne, en fait. Et je me rends compte qu'il y a énormément de mensonges. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il s'agisse de polyamour, finalement, parce que la situation ne m'a pas été expliquée, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de mensonges.
Mais au départ, quand vous rencontrez cet homme, mm-hmm. il est d'accord pour s'investir et s'engager avec vous de la même manière, en exclusivité, ou ça n'a pas été dit?
Alors, ça n'a pas été dit. En fait, ça a été dit par la négative, c'est-à-dire qu'il m'a demandé si j'avais déjà été infidèle. Donc, j'ai répondu que non, c'était quelque chose que je ne connaissais pas et que je ne souhaitais pas vivre, en fait, tout simplement. Il m'a dit que dans son passé, il avait été infidèle une seule fois. Et voilà, on est parti sur les bases d'une relation comme ça.
Et vous avez le sentiment comme ça aujourd'hui que s'il vous a dit ça, c'était peut-être une manière de préparer le terrain?
Oui. Voilà, exactement. C'est ce qui se passe en fait, c'est que j'ai des actes manqués en fait. Il y a des SMS qui me sont envoyés et qui sont destinés à d'autres personnes. Il m'a avoué une infidélité au mois de mai. Enfin, c'est... Et du coup, moi, bêtement, j'essaye de contraindre à rester dans mon petit cadre de la fidélité. Enfin, et du coup, enfin, c'est forcément pas tenable et pas possible. Et en même temps, il me dit qu'il ne veut pas me perdre. Enfin, c'est chaotique, en fait, comme relation. C'est fait de beaucoup de souffrance. Moi, je souffre beaucoup. Lui, enfin, dit qu'effectivement, il ne veut pas me perdre, qu'il m'aime. Mais enfin, je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais plus comment agir, en fait, puisque de toute façon, je me dis que s'il n'est pas fidèle, enfin, il ne va pas forcément l'être maintenant. Et ce n'est pas quelque chose qui l'épanouit visiblement, quoi.
Et je crois que le plus simple, ce serait déjà de pouvoir en parler très clairement tous les deux. Et dans ces cas-là, quand on a vraiment du mal à s'exprimer, ça semble difficile pour lui, ça semble difficile pour vous. Moi, je conseille parfois juste un rendez-vous avec un conseiller conjugal, ou c'est même pas forcément nécessaire d'aller voir un thérapeute, mais pour que vous définissiez des bases, si bases communes il peut y avoir, ce qui n'est pas sûr évidemment dans votre cas.
Oui, voilà.
En fait, il y a aussi, de façon générale, lorsque énormément de craintes au sein d'un couple où on a deux personnes qui s'aiment, mais qui ont justement, on va dire, des positions extrêmement différentes, de se dire « Ah, ces positions étant totalement irréconciliables, la seule solution pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, c'est le mensonge. » Et ça, à mon avis, à court terme, souvent à moyen terme au mieux, c'est quelque chose qui va aboutir à une impasse et qui aboutit d'ores et déjà, de toute façon, à des souffrances. Donc l'unique solution, c'est juste de se dire, est-ce que vraiment ces positions qui ont l'air totalement irréconciliables, le sont-elles vraiment? Est-ce que chacun n'a pas la possibilité éventuellement vraiment de réfléchir à sa propre position et d'essayer de voir s'il y a une possibilité d'évolution dans ces positions? Mais ça suppose un travail sur soi qui est très
mais
très important.
Mais il y a quand même une chose importante à dire, Johan, en tout cas dans ce que vous nous racontez, c'est que cet homme, il vous a envoyé quand même des appels au secours. Il y a quand même beaucoup de SMS qui vous arrivent qui ne vous sont pas destinés, donc c'est une manière de se montrer, de se mettre à découvert. Et quand il vous dit qu'il tient à vous et qu'il n'a pas envie de vous perdre, c'est aussi des SOS qui vous envoient. Alors est-ce que il compte sur vous pour l'aider à s'engager? Mais non, là il faut pas avoir peur. Si c'est ça, il faut au contraire être solide et le diriger un petit peu plus, parce que au fond là vous vous êtes posé en victime et vous êtes en train de subir, alors que peut-être ce qu'il attend, c'est que vous vous redressiez et que vous le traitiez un petit peu justement plus sérieusement, quoi. Voyez, moi je ne sais pas, hein, encore une fois, je pense qu'il faut
le traiter plus sérieusement.
Mais lui faire comprendre que vous êtes d'accord pour continuer, mais qu'il y a des conditions et que ces conditions, vous allez l'aider à les respecter, mais que vous ne serez pas la victime qui accepte quelque chose dont vous n'avez pas envie.
D'accord.
Mais pour ça, il faut que vous soyez apte à éventuellement de temps en temps accepter qu'il puisse encore faillir, comme on dit. Hein, excusez-moi, Arthur Vernon, je reprends des termes de morale, mais je crois qu'on en est là. Si pour vous c'est impossible de rester toute votre vie avec un homme qui n'est pas fidèle, il faut accepter que entre le moment où il vous rencontre et où vous lance tout de suite la perche, et le moment où il arrivera à vous être fidèle, il peut y avoir des petits glissements, des petits couacs, voyez. Mais si vraiment vous pensez que c'est une histoire qui peut être intéressante pour l'un comme pour l'autre, ça vaut le coup. Mais pour ça, il faut que vous soyez un petit peu plus responsable et pas que vous restiez à subir ce qui est en train de se passer. Vous comprenez?
Parce que je suis un peu passée par toutes les phases, en fait. Effectivement, il y a eu un moment donné de désespoir. Après, je me suis effectivement redressée et voilà, portée en foi de tout ce qui se passait. Et là, j'ai mis fin, en fait, hier à cette relation. Donc là, il accepte, en fait, de venir voir un thérapeute de couple avec moi.
Bon,
mais
c'est
vrai que
pas
je suis passée par tellement de phases différentes.
Mais parce que dès le départ, il aurait fallu que vous soyez un petit peu plus à la fois compréhensive et ferme. Vous savez, j'ai envie de prendre cet exemple de l'alcoolique. Quelqu'un qui est alcoolique et qui décide de ne plus boire, il va falloir du temps entre le moment où il décide de ne plus boire et le moment où il y arrive. Bon, alors peut-être que vous êtes avec un homme qui a vraiment envie de s'engager avec vous, mais qu'il faudra peut-être du temps, et puis peut-être que de temps en temps, il va à nouveau boire un petit coup. Ouais. Voilà.
Alors, si je peux me permettre, c'est vrai que ça me heurte terriblement quand j'entends comparer l'alcoolisme avec une forme de liberté sexuelle, parce que
moi
je pense
aussi
qu'elle est extrêmement naturelle, et l'alcoolisme est plutôt une maladie. Donc je pense qu'il faut aussi vraiment réfléchir sur les contraintes sociales, sur votre idée quand vous vous dites que c'est vraiment intolérable pour vous. Je comprends la norme, mais juste à mon avis, essayer de réfléchir aussi un tout petit peu sur ce concept.
Mais je pense que le thérapeute les aidera à réfléchir l'un et l'autre. Merci beaucoup, Johan, en tout cas. On se retrouve dans un instant et vous pouvez nous appeler également sur Sud Radio si vous le désirez. 0 826 300 300.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes toujours avec Isabelle Brouet et Arthur Vernon. Arthur Vernon, merci d'être avec nous. Vous êtes quelqu'un qui défend vraiment l'idée que le jour où une société acceptera que chacun vive ses pulsions, ce sera une société qui ira mieux, hein, en gros.
Oui, c'est pas simplement une question de pulsion. Encore une fois, quand je disais tout à l'heure, la liberté, c'est pas faire tout et n'importe quoi. C'est de définir quelles sont ses propres règles avec les partenaires, avec les personnes avec qui on est. C'est plus ça. Et aujourd'hui, on nous impose juste des règles, donc autant être plus en accord avec le fonctionnement biologique du corps humain. C'est fondamental.
Mais c'est normal qu'on nous impose des règles. Toute société impose des règles, oui. Et dans tous les domaines.
Mais ces règles sur l'exclusivité sexuelle ont été déterminées pour plein de mauvaises raisons.
Excusez-moi, mais il n'y a plus de règles sur l'exclusivité.
Bien sûr que si. Des règles morales, pas pénales, et encore un petit peu.
Mais non, on peut divorcer, l'adultère n'est plus considéré comme une faute, enfin arrêtez.
Voilà, donc il y a eu des progrès législatifs. Mais d'un point de vue moral, encore une fois aujourd'hui, et l'auditrice tout à l'heure était totalement dans cet état d'esprit qui consiste...
Mais je crois que vous confondez morale et sentiment de souffrance, je crois que c'est pas tout à fait la même chose. On peut être totalement amoral et souffrir, et on peut être totalement dans la morale et souffrir, enfin je veux dire...
Oui, mais parce qu'il y a un contexte global qui fait que...
Non mais ça, je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas parce qu'on est... dans la morale qu'on va souffrir ou qu'on ne va pas souffrir. C'est deux choses qui sont totalement différentes.
Non,
j'entends, c'était la souffrance de Johan. C'était sa souffrance que j'entendais.
Vous avez raison. Et elle a une vraie souffrance. Et je ne parle donc pas forcément spécifiquement de sa souffrance, mais je parle du contexte qui a fait qu'elle avait cette souffrance, alors que biologiquement, un corps humain n'est pas fait pour désirer la même personne toute sa vie. Alors la vraie question, c'est doit-on rester avec la même personne toute sa vie ou pas? Ou doit-on effectivement saucissonner son existence entre...
Après 68, il y a eu des mouvements hippies, oui. Où il y avait justement des couples qui se mélangeaient avec des enfants qui étaient un petit peu mélangés aussi. Oui. Et ça a été une catastrophe extraordinaire et ça s'est terminé.
La polyamorie n'a rien à voir avec les mouvements hippies.
Mais je ne parle pas de polyamour. Je dis que le côté chacun baise avec qui il a envie, on a vu ce que ça a donné dans notre culture, encore une fois. Oui. Parce qu'il y a des cultures où ça peut fonctionner, des cultures.
Parce que là aussi, dans le mouvement hippie, on était dans une logique où il n'y avait absolument plus de règles, ce qui n'est pas ce que je dis. Je dis que les règles doivent justement être discutées. Et puis, il y avait aussi un contexte, notamment d'autres consommations de substances, de plein de choses qui ont fait que l'ensemble du tout a été voué à l'échec, alors que si on avait un tout petit peu de réflexion, on va dire un peu construite et documentée, la biologie, ces informations-là, on les a depuis le début des années 80. C'est extrêmement récent.
Mais les neurosciences nous parlent aussi du désir mimétique, du rival et de tout ce que ça provoque, de jalousie, d'envie, voire même de crimes passionnels. Donc si vous allez sur le terme de la biologie, moi je vais aller sur les neurosciences, et vous n'êtes pas sûr de gagner.
Et c'est pour ça qu'on travaille sur nos émotions, et c'est pour ça que quand on est dans une relation polyamoureuse, par définition, on travaille sur les émotions, la jalousie, et dans l'acceptation, et dans le dialogue, la communication, et principalement la communication.
Est-ce qu'on peut redonner la parole à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, notamment à Kiwi qui est avec nous? Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Kiwi. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 24 ans.
Voilà.
Et le sujet vous fait réagir également, comme beaucoup d'autres.
Oui, parce que moi je me considère comme complètement libre en fait. Je fréquente absolument toutes les personnes que j'ai envie de fréquenter, homme ou femme, à la fréquente ce que je veux et avec l'intensité qui me convient. Et je suis très heureuse comme ça.
D'accord. Mais donc vous n'avez pas quelqu'un en particulier dans votre vie. Vous avez plusieurs personnes.
Je crois.
Ça va, ça vient, si je puis dire.
Je crois fondamentalement en l'amour, à mon sens, l'amour passion, l'amour amoureux, qui s'il est absolu dans l'intensité du sentiment, ne peut être qu'unique pendant sa durée, mais que la relation soit longue ou pas, ça n'empêche absolument pas d'aller voir ailleurs, entre guillemets, d'assouvir plutôt ses fantasmes et ses envies.
D'accord.
Je pense qu'on peut tout mélanger.
En tout cas, vous y arrivez.
En tout cas, oui, moi j'y arrive très bien. Oui. Et je pense que c'est la seule manière d'être heureuse, à mon avis, puisque Je pense que si l'homme que j'aime accepte et est heureux de me savoir heureuse et épanouie, c'est sans relation de non-dit, sans frustration et sans restriction quelconque, à mon sens, c'est une relation incroyablement saine et respectueuse, au contraire de la fidélité et tout ça.
Bien sûr, bien sûr. Mais dans votre cas, je pense qu'on peut en effet considérer que vous avez cette sorte de philosophie. Moi, je ne sais plus ce qu'il faut dire, si c'est une philosophie, si c'est un style de vie, enfin bref.
C'est certainement basé sur pas mal de réflexions. Et évidemment, je ne peux que être totalement d'accord avec ce que Kiwi peut dire. Et approuver totalement, effectivement, cette façon de voir, mais qui, encore une fois, nécessite qu'il y ait eu une réflexion personnelle pour réussir, comme ça, à s'affranchir de tout ce qu'on avait pu dire par ailleurs. Mais voilà, je trouve ça formidable, et je pense que c'est, effectivement, quelque chose qui devrait permettre d'inspirer le plus possible les auditeurs, les auditrices.
Moi, si je peux me permettre, je reviendrai volontiers sur une définition. À nouveau, c'est mon truc aujourd'hui. Parce qu'on parle à chaque fois de fidélité. Et nous, en polyamorie, on va plus parler d'exclusivité. Parce que moi, par exemple, pour reprendre les mots de Françoise Saint-Père, elle écrit « Je suis fidèle, mais non exclusive ». La fidélité, ça vient du latin « fides fidei », c'est la confiance, c'est être digne de confiance. C'est « je dis ce que je fais ce que je dis, et quand je m'engage à quelque chose, ma parole a de la valeur. Et je m'engage à respecter la relation, je m'engage à respecter les émotions de l'autre. » En revanche, être non exclusive sexuellement ou amoureusement, ça veut dire « je peux avoir plusieurs relations en parallèle ». C'est pas tout à fait la même chose.
Ça vous convient, ça, comme définition, Kiwi ?
Moi, c'est plutôt ce que j'appellerais de la loyauté, à mon sens. À partir
oui,
du moment
parce
où
que le terme fidélité est encore très connoté, donc le terme loyauté l'étant moins, c'est bien trouvé.
Voilà, après, moi, en ce qui me concerne, j'aime pas trop les étiquettes, donc je me considère pas comme polyamoureuse, ni polygame, mais simplement libre, en fait.
Je
milite pour la liberté dans le sens où on est stigmatisé par des clivages où on nous impose que le bonheur absolu ne serait à atteindre seulement qu'à la fin du film, quand il y a mariage, enfant, promesse de fidélité absolue et... Alors que l'être humain, il est en perpétuel conflit avec lui-même pour combattre ses instincts et surveiller son partenaire, et on vire constamment dans une sorte de paranoïa.
Alors moi, il y a une question vraiment intéressante que je veux vous poser, Kiwi, et j'espère que vous allez nous répondre. Qu'est-ce qui fait qu'à 24 ans, vous avez déjà cette capacité à assumer quelque chose qui est en effet un petit peu en dehors de la norme? Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de comprendre quel est votre parcours ? Comment vous êtes arrivé à cette philosophie-là ? Vous nous répondez dans quelques instants, si vous le voulez bien, sur Sud Radio.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes toujours en train de parler du polyamour sur Sud Radio, et c'est vrai que vous êtes très très nombreux à vouloir réagir au 0826 300 300. J'ai posé cette question à Kiwi qui est avec nous, Arthur Vernon, Isabelle Brouet, je suis sûre que vous aussi ça vous intéresse. Quel est son parcours pour arriver à une telle maturité, une affirmation de soi à 24 ans? Moi je trouve ça plutôt bien, Kiwi. Alors
Je ne considère pas avoir un parcours particulier. Je pense que, comme tous les êtres vivants, je suis à la recherche du bonheur. Et je me suis simplement aperçue que le bonheur n'était pas dans un conflit avec soi-même ou avec son partenaire. Et on est en conflit perpétuel quand on se bat contre ses instincts pour la fidélité de soi ou celle de l'autre. Je pense que le bonheur, à mon avis, il est ailleurs. Si on arrive à être heureux avec une personne et
non, mais bien sûr, je comprends bien ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Est-ce que vous avez des parents qui sont particulièrement ouverts ? Est-ce que vous avez rencontré, un premier amant qui était ouvert ? Qu'est-ce qui vous a amené à ça ?
Non, j'ai pas de parents qui soient très très ouverts là-dessus, je pense. Mes relations, j'ai déjà vécu dans des relations totalement exclusives et totalement dites normales. Ça m'a juste pas intéressée. Je me rendais compte que ça ne m'épanouissait
D'accord.
pas du tout.
Pour l'instant, vous n'avez pas encore, vous savez pas vraiment ce qui vous a permis d'avoir cette façon de vivre.
Juste la recherche du bonheur, je dirais. La réflexion là-dessus.
Oui, mais la recherche du bonheur, c'est assez vague comme réponse.
Ben, on cherche tous à être heureux, je pense.
Moi, personnellement, je rejoins totalement...
Je suis surprise, évidemment. Arthur Vernon.
Ah, non, je suis très, très heureux d'entendre ce témoignage de Kiwi. Et je pense, en plus de ça, que sa réflexion, sa démarche est exactement la bonne. C'est-à-dire, elle a senti éventuellement...
En tout cas, elle est heureuse. Donc,
ce qui est formidable.
Bien sûr.
Non, mais l'histoire du conflit, c'est une excellente explication. Le sentir un conflit intérieur lorsqu'on est dans une situation de couple, de recherche de fidélité et de conflit par rapport à ses propres désirs, je pense qu'il y a énormément d'auditeurs et d'auditrices qui doivent sentir ça aussi.
Oui, mais c'est pas ce qu'elle m'a répondu. C'est pour ça que, Kiwi, je pense que pour l'instant, vous n'avez pas encore réellement compris quelle a été votre démarche. Moi, j'entends bien quand vous me dites vous avez connu des relations exclusives et finalement, vous sentiez étriqué, et je pense que c'est pour ça que vous avez décidé de tout envoyer balader et de vous dire moi je suis une femme libre, je veux rester libre. Je pense que c'est ça votre démarche, mais c'est pas la recherche du bonheur, si vous voulez. Voyez ce que je veux dire,
je suis choqué.
Oui.
Non, mais elle peut réfléchir. La réflexion peut dans une optique d'essayer de trouver le bonheur, la réflexion personnelle est quelque chose qui peut permettre d'aboutir.
Oui, mais la recherche du bonheur, c'est une utopie. C'est ça que je veux dire.
Ce qui s'en rapproche le plus, en tout cas, en ce qui me concerne.
Oui.
Moi, je suis heureuse comme ça. J'ai arrêté de lutter. À partir du moment où j'ai arrêté de lutter et que j'étais dans l'acceptation de qui j'étais, de ce que mon corps me réclamait.
Bien sûr, Kiwi. Mais Kiwi, vous avez raison et vous êtes une femme libre et vous semblez tout à fait épanouie et heureuse. Je ne suis pas du tout en train de vous critiquer. Je dis juste, parce que je suis obligée de tenir compte de tous ceux qui nous écoutent, la recherche du bonheur, c'est une utopie. Parce que c'est le bonheur, c'est des instants de bonheur qu'on a, mais le bonheur total, ça n'existe pas. Malheureusement, dans la vie, on va rencontrer des drames, des souffrances. C'est juste ce que je voulais dire. Mais encore une fois, je ne critique pas une seconde votre démarche, et je suis tout à fait sûre que vous êtes sincère et que vous êtes heureuse. Ne vous méprenez pas sur mes propos.
Non, pas du tout.
Sur le bonheur, Brigitte, vous avez raison, effectivement, je pense que le bonheur n'existe
Arthur
pas.
Arthur vient de me dire que j'ai raison, c'est extraordinaire.
Non, mais je pense que le bonheur, de façon générale, n'existe pas, c'est un mythe, et c'est quelque chose qui nous pousse à aller plus loin à chaque fois. Mais justement, pour essayer de limiter le plus possible les différentes entraves, on essaye justement d'enlever celles qui semblent artificielles.
Celles qui ne nous conviennent pas.
Celles qui ne conviennent pas, et qui, à mon avis, ne conviennent pas aussi au fonctionnement général
Ce que je voulais soulever dans le témoignage de QI, que je trouve tout à fait formidable, c'est que c'est justement parce qu'à un moment donné, elle s'est sentie prisonnière, entravée, pas heureuse, qu'elle a tout envoyé balader. C'est courageux et c'est la preuve, en effet, d'une femme qui sait ce qu'elle a envie d'être. Et c'est ça, une femme libre. Mais une femme libre, ça peut aussi être une femme qui décide de rester au foyer et d'élever ses enfants. Voilà, c'est chacun...
Mais globalement, c'est que chacun et chacune trouve ce qui lui convient, et justement pas nécessairement en rentrant dans une norme ou dans une normativité, mais que chacun puisse réfléchir et se sente libre de faire ce qui lui convient dans la relation qui lui convient.
Merci beaucoup, Kiwi, en tout cas de votre témoignage. Merci à vous. Et puis ces gens qui ont envie d'être un peu provoques sur Sud Radio. Bonjour Jean.
Bonjour Brigitte, heureux de vous retrouver sur cette antenne.
Merci.
Brigitte, je vous appelle parce qu'effectivement, il y a un petit côté provocateur dans les propos que je vais tenir et au risque de faire bondir quelques-uns de vos auditeurs. Mais je crois que, étant parent moi-même, ayant des enfants, si on avait demandé à mon épouse ou à moi-même qui aimes-tu, nous aurions répondu les deux. Et ce qui, à mon avis, prouve que la notion de polyamour à plusieurs amours peut avoir une réalité tout à fait correcte et non immorale dans un couple. On n'aimera pas nos deux enfants de la même manière, pour les mêmes raisons, mais on les aimera tous les deux sans créer de différence. Certains seront aimés pour leur présence, d'autres pour leur soutien, d'autres pour je ne sais quelle raison. Et systématiquement, tous les gens qui nous écoutent, tous les auditeurs, se reconnaîtront peut-être dans ce propos, même s'il paraît peut-être un peu, oui, comme vous l'avez dit, provocateur.
Non, mais moi j'accepte tout à fait votre comparaison, Jean, mais j'ajouterais quand même, et je crois que c'est important, même si vous aimez vos enfants autant, et vous ferez quand même des toutes petites différences, et ces toutes petites différences pourront faire souffrir l'un ou l'autre des enfants, parce que la jalousie entre frères et sœurs, la souffrance dans la fratrie, elle est quand même inévitable.
Je l'entends Brigitte, mais comment vous dire, je ne crois pas que le fait de d'aimer deux personnes à la fois soit quelque chose d'immoral ou d'amoral. Nous sommes tous amenés à avoir, par exemple, de loisirs. Prenons cet exemple, de loisirs. On va aller à la pêche et faire du VTT. On va avoir une maison de campagne, une maison de ville. On va avoir un chalet à la mer et un chalet à la montagne.
Oui, mais là, vous mettez les objets équivalents au sujet. C'est un peu difficile, quand même.
J'entends, Brigitte. Mais je veux dire que l'exclusive, la notion d'exclusive n'est pas... n'est pas envisagé dans le cadre de notre vie de tous les jours, notre vie sociale. Il n'y a pas d'exclusive. Pourquoi vouloir créer une exclusive dans une relation?
Mais parce que ça nous rassure, tout ça. Mais moi, je vais vous donner la réponse. Moi, je suis pas pour l'exclusivité. Je pense que si vous m'écoutez depuis pas mal de temps, vous savez très bien que j'ai jamais jugé qui que ce soit d'être fidèle ou d'être infidèle. Pardon. Mais l'exclusivité, ça rassure. Il y a tellement de gens qui sont en manque d'estime d'eux-mêmes, en manque de confiance, qui ont besoin de contrôler. Et donc, l'idée que leur partenaire puisse aimer quelqu'un d'autre, voire même désirer quelqu'un d'autre, ça les met dans des souffrances incommensurables. Voilà, c'est tout. Donc, si on a à un moment donné, si la société à un moment donné a pensé qu'il était peut-être plus simple pour que tout soit un peu plus calme, qu'on mette un homme et une femme ensemble et puis que chacun reste en couple, c'est pour que la société soit à peu près gérable. Maintenant, moi, dans l'absolu, je comprends tout à fait ce que dit Arthur Vernon et ce que dit Isabelle Brouet. Je suis absolument pas contre. Je dis simplement que c'est un petit peu utopique. C'est possible pour certaines personnes, mais c'est pas possible pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Mais voyez, Jean. Mais je crois que si on prône l'exclusivité, c'est pour éviter bien des souffrances, bien des crimes passionnels. On entend tous les jours des gens qui vont aller assassiner leur partenaire parce que
Mais c'est pas de l'amour. C'est de la possessivité. C'est de la propriété, ça n'est pas de l'amour.
Oui, mais
il faut être très adulte
pour pouvoir vraiment aimer. Parce que aimer, c'est accepter l'autre avec ses failles, ses faiblesses. Et il n'y a pas tant de gens que ça qui sont vraiment adultes.
Mais effectivement, la polyamorie n'est pas du tout adaptée à tout le monde. Mais je voulais juste revenir sur quelque chose, si je peux me permettre.
Allez-y,
pardon.
Bien sûr.
Quand vous dites que l'exclusivité a été créée pour protéger les gens parce que ça les rassure, oui, et en même temps, le mariage est aussi une institution qui a été à l'origine créée pour, dans une société patriarcale, pour dire de qui l'enfant était l'enfant. Et pour être sûr que les hommes avaient droit de regard sur le ventre de la femme et être sûr que leur progéniture était la leur. Ça date de... Il n'y a pas tant de temps que ça dans l'histoire de l'humanité.
En partie, ce n'est pas uniquement la seule raison. C'était aussi pour régler les problèmes d'argent et de biens.
Bien sûr. On revient sur la propriété, l'exclusivité, la possessivité.
C'est à partir du moment où l'humain est devenu sédentaire, absolument. Jean, je vous en prie, allez-y, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais réagir et cautionner un petit peu ce que vient de dire votre invité. Je crois que la société a établi cette notion d'exclusive. C'est aussi pour pouvoir réglementer le fonctionnement social. Je ne pense pas réellement que cette démarche ait été faite pour assurer le bonheur de l'un ou de l'autre. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je ne dis pas que j'encourage ou que je décourage cette notion de fidélité ou d'infidélité, mais on peut être très bien fidèle à deux personnes. Je ne pense pas que ça puisse être mis en opposition. Voilà, c'est en même temps, je vais encore vous faire bondir. Un jour, une femme a dit à un homme, si tu m'aimes, fais-moi un enfant. Et l'homme lui a répondu, c'est parce que je t'aime que je ne t'en ferai pas, parce que le fait d'avoir un enfant introduit aussi un tiers au niveau du couple. Et à ce moment-là, il y a un transfert d'amour. Et est-ce que ça ne devient pas du polyamour à partir du moment où
Jean, vous êtes dans un paradoxe parce que vous venez de m'expliquer qu'on peut aimer plusieurs personnes, qu'on n'a pas. Et là, vous me dites s'il y a un enfant, l'amour se divise. Excusez-moi.
Je ne cautionne pas le propos. Je dis qu'il peut exister. C'est introduire un tiers, ça veut dire aussi diviser ou accorder deux fois le même amour, une fois à son époux.
C'est bien ce que je dis. Vous êtes dans un paradoxe. Excusez-moi. C'est ce que je relève.
En vous parlant, je n'ai pas dit que c'était mon opinion. Je cherche juste à essayer de comprendre pourquoi en amour la notion d'exclusivité serait obligatoire et pourquoi dans le cadre d'une vie sociale et dans tous les actes de notre vie nous sommes dans une situation de polyamour. Voilà. Après, c'est une interrogation que je pourrais qualifier peut-être philosophique d'une manière prétentieuse, mais ça reste juste ma pierre à construction d'édifice. Voilà.
Oui. Alors, juste un petit commentaire. Je pense qu'il y a un apport important de ce que vient dire Jean qui permet aux auditeurs de se rendre compte de quelque chose. C'est vrai que parfois, quand on dit polyamour, on se dit c'est impossible, vraiment, j'aime quelqu'un, je ne peux pas aimer plusieurs personnes. Et c'est vrai que de penser à la famille est un très bon exemple. Oui, on peut aimer plusieurs personnes, puisque généralement, on aime ses deux parents, on peut aimer ses frères et sœurs et avoir vraiment des sentiments très forts. Donc, ça veut dire que chacun peut se rendre compte qu'on a la possibilité déjà d'avoir des sentiments très forts pour plusieurs personnes. Ensuite, ce qui se passe souvent, c'est que dans le couple, lorsque le couple dure, ce qui relève vraiment de la passion amoureuse, va justement se transformer de plus en plus en quelque chose qui ressemblera à l'amour familial, à l'amour du fait de cette promiscuité, donc du fait que le désir va complètement s'étioler avec le temps. Et on aura toujours des sentiments forts, mais ces sentiments forts vont vraiment...
C'est ce qu'on appelle la tendresse, Arthur Vernon.
Oui, tendresse, complicité, tout ce qu'on veut, mais j'aime pas qu'on mette un mot aussi faible que le mot tendresse.
Ah ouais, vous trouvez ça faible, le mot tendresse ?
Ça peut être interprété comme un mot faible, alors que le mot amour est tellement magnifié aujourd'hui, on peut avoir quelque chose d'extrêmement beau dans l'amour qu'on porte pour son conjoint, ses frères et sœurs, ses parents, ses enfants. Donc c'est quelque chose, ce sentiment-là, on va dire amour familial, mérite d'être certainement revalorisé d'un point de vue de la vision sociale.
Et si je peux me permettre une dernière chose, polyamour ne veut pas dire aimer plusieurs personnes. C'est pour ça que moi je reviens à
oui,
polyamorie.
Vous avez raison.
C'est pouvoir être en relation, avoir la possibilité d'être en relation avec plusieurs personnes, que toutes les personnes concernées soient au courant et d'accord dans des relations qui sont consensuelles et éthiques. Donc effectivement, c'est très bien de dire on peut aimer plusieurs enfants, on peut aimer plusieurs amis, et si quelqu'un vous disait...
Mais on peut aimer le chocolat, le café...
On peut aimer le chocolat, le thé, mais surtout plusieurs amis, je préfère rester sur des...
Aimer est tellement galvaudé en français...
Mais je préfère rester sur des humains. Donc effectivement, en amitié, on n'est pas exclusif.
Oui. Donc
voilà, aimer plusieurs personnes, tout le monde est au courant. Tous les gens qui trompent leur conjoint depuis la nuit des temps, comme vous disiez tout à l'heure, sont au courant. Ce que rajoute la notion de polyamorie, c'est de pouvoir en parler ensemble.
En même temps, beaucoup de personnes qui ont justement des relations parallèles aiment bien dire « j'aime ma femme, mais je désire ma maîtresse » ou « je désire mon amant ». « J'aime mon mari, mais je... » Vous voyez,
on peut être en couple et désirer son conjoint et avoir...
Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on fait tous ce qu'on peut avec nos mots pour nous arranger et penser qu'on est comme il faut. Voilà. Et c'est pour ça que c'est des sujets qui sont toujours très compliqués, très complexes. Et c'est pour ça qu'on en parle sur Sud Radio. Jean, merci en tout cas. Vous n'avez pas été si provoque que ça, hein, finalement.
Merci à vous et bonne fin d'émission.
Merci. On va bien sûr continuer à parler du polyamour sur Sud Radio avec vous. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Je rappelle que nous sommes avec Arthur Vernon et Isabelle Brouet. On a déjà beaucoup parlé de cette fiction lutine. Dans un instant, on va donner la parole à Nicolas qui est avec nous, qui a été marié deux fois et qui, semble-t-il, est tout à fait dans votre camp. Il est également polyamoureux, il me semble. Hein, mais on va lui dire bonjour et puis on lui donnera la parole dans un instant. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour Sud Radio.
Merci d'être avec nous. Alors, dans un instant, vous allez nous expliquer si vous êtes vraiment un polyamoureux pure souche ou pas. On se retrouve dans un instant.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Il nous reste quelques minutes pour ce débat sur le polyamour. Vous l'avez compris, Arthur Vernon, Isabelle Brouet sont plutôt militants du polyamour. Alors moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même pas pour tout le monde, loin de là. J'ai pas tendance à le penser. Je le pense vraiment, sincèrement. Peut-être parce que j'ai l'habitude de vous écouter à quel point c'est compliqué de découvrir qu'on n'est pas le seul, unique pour son chéri ou sa chérie. Nicolas, a priori, je pense que d'après ce que j'ai lu sur ma fiche, vous seriez un polyamoureux. Bonjour Nicolas.
Bonjour. Oui, car j'étais déçu. J'étais 20 ans quand même avec deux femmes différentes. La première, sexuellement, c'est bien. mais oui. La deuxième, c'était pas le top, quoi.
D'accord.
Alors, j'ai aussi un problème avec l'alcool, je me suis fait seul soigner, les yeux se sont ouverts d'un seul coup, et bon, je voyais que j'étais pas heureux. Alors, c'est vrai que j'ai fait... Bon, j'étais fidèle, mais d'un seul coup, eh bien, je me suis mis à aller à droite et à gauche.
D'accord. Tout en étant encore marié, c'est ça? Ou vous aviez quitté déjà votre deuxième femme?
J'étais sur la fin. J'étais carrément sur la fin parce que je voyais que ça allait plus du tout. Et là, ça fait quand même quelques temps. Là, j'ai donc, une amie de 34 ans, une autre de 45 ans en même temps, mais ça se passe bien.
Et elles sont au courant?
Ah oui, mais ils s'entendent bien même. On fait des fois des petites parties à trois, c'est sympa, j'aime bien.
Oui, bah c'est voilà. Très bien.
Voilà, très bon, bien. Moi je suis pas... Bon, il y a des gens que ça va et des gens que ça va pas, je suis bien d'accord avec vous.
Oui, mais je crois que c'est ça peut-être qu'il faut bien comprendre, hein, dans le polyamour, on ne ment pas, on ne raconte pas des histoires du genre « j'ai été retenue au bureau », on dit « bon, je ne suis pas... Enfin, je peux avoir d'autres histoires, tu l'acceptes, ok, bon, on se voit et puis tout va bien. » Donc dans votre cas, oui, vous êtes dans la catégorie des polyamoureux, oui, il me semble. Hein.
Oui,
Arthur Vernon, vous êtes...
J'évite quand même de prendre des femmes qui boivent, parce que bon, ça ne va pas le faire, hein. Ça fait quand même 5 ans que je suis abstinent, c'est dur, on est malade alcoolique à vie, vous en parliez un peu tout à l'heure, c'est intéressant d'ailleurs.
Ben bah, oui, c'est sûr que si vous êtes avec une femme qui a tendance à boire un peu, ça va. Vous avez le diable devant les yeux. Hein.
Oui, et puis bon, ça peut. Je fais partie d'une association quand même. J'aide aussi des gens. Mais bon, quand je vois une nana qui commence à s'approcher, je sais qu'elle est dans l'alcool, c'est miette, quoi. Je veux pas.
Bien sûr, mais vous vous protégez de vous-même, c'est bien. C'est
ah, oui.
C'est prudent.
Bah, c'est maladie très grave.
Excusez-moi, j'aurais peut-être une petite question à la fois.
Enfin,
pour...
c'est pas une maladie, c'est une addiction. Hein. Moi, je voudrais pas quand même qu'on considère que les alcooliques sont des malades. C'est des personnes qui à un moment donné étaient un peu fragiles, vulnérables, et puis qui ont sombré dans l'alcool. Et c'est vrai que comme toute addiction, comme toute drogue, c'est très difficile d'en sortir. Hein, il faut se faire aider. Mais c'est pas une maladie.
Il ouais, ne faut pas dire que c'est un addictologue. Hein. Surtout pas. Moi, j'ai mon psychiatre. Il sait la maladie.
Ça dépend. Bon, ça dépend lesquels. Mais si ça arrange de dire que c'est une maladie, bon, moi je veux bien qu'on dise que ce soit une maladie, mais je vois pas en quoi c'est une maladie, parce que c'est un truc qu'on attrape qui est contagieux. Non, il me semble pas.
Non, ouais, voilà, ouais, si on le voit comme ça, je suis bien d'accord. Ouais.
Oui, alors j'avais une petite question à la fois donc pour vous, mais également ce que vous pensez de vos partenaires. Est-ce que vous semblez que ce style de relation vous convient? Est-ce que vous pensez que ce style de relation convient et apporte globalement du bonheur à vos partenaires également?
Moi, je pense qu'ils sont avec moi surtout pour mon expérience, certainement, parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Le bonheur, oui, du bonheur, ce serait, oui. Moi, je trouve ça bien.
Bah, donc, moi, j'appelle ça du plaisir et de la jouissance, hein, mais bon...
Oui. Bon, justement, je voulais poser une question, d'ailleurs, au niveau de la jouissance. Hein. Bon, c'est vrai, oui. J'ai des médicaments, tout ça, et je mets longtemps à venir, quoi. Bon, je pense que je vais voir mon médecin.
C'est fort possible, si c'est des médicaments style un petit peu antidépresseur, ça peut retarder voilà. L'éjaculation, absolument. Donc
d'accord.
Si c'est ça, il faut juste en parler à votre médecin et peut-être trouver une autre molécule qui sera moins inhibante, ce serait mieux, parce que ça peut, à force, ça peut poser un petit problème. Vous en parlez à votre médecin. De toute façon, ça peut être marqué déjà sur la notice du médicament. Lisez-la, prenez une paire de jumelles pour bien arriver à lire la notice, parce que c'est vrai que c'est toujours écrit tout petit. Mais ça peut être marqué, puis sinon vous en parlez à votre médecin et avec une autre molécule, peut-être que vous aurez moins ce problème.
Et puis aussi, bon, je vais vous le dire, mais bon, ma deuxième femme a été un peu agressive. Bon, je ne suis pas un homme battu, bon, je me défendais pas, parce que moi, je respecte la femme, hein, en tant que femme. J'estime, j'ai assez vu maman se faire taper sur la figure. Moi, j'ai pas envie de faire la même chose. La deuxième, ça n'est pas du tout, donc c'est vrai que ça m'a rendu bien malade de l'alcool aussi. Voilà.
Mmh. Oui, Oui, bah, de toute façon, vous étiez dans une période où vous n'étiez pas heureux, où vous ça n'allait pas bien, et vous avez bu un peu pour oublier, et puis après, on sombre dans l'alcool. Hein. C'est bien connu. Hein. C'est pour ça que je dis bien, c'est pas une maladie, c'est une addiction. C'est pas tout à fait la même
Merci.
Chose. Bon, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes heureux, vous les rendez heureuses, tout va bien.
Ça va. Nat et Brice vont se reconnaître. Voilà.
Ah, oui. Ben écoutez, vous leur avez fait découvrir Sud Radio, ça y est.
Oui, oh ben oui, mais c'est ma spécialité. Bon, la radio, j'en fais de temps en temps. J'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse, dans les années 80. Oui, je suis un ancien de la radio. Voilà.
Très bien, très bien. Ben merci d'avoir pris la parole, Nicolas. Merci beaucoup.
Il n'y a aucun problème.
Je m'étais juste permis de poser la question, encore une fois, par rapport aux auditeurs qui se posent beaucoup de questions sur est-ce que ça peut fonctionner, ne pas fonctionner. C'est effectivement intéressant d'avoir des témoignages de personnes et de voir un petit peu ce que ça peut faire et à quel point ça peut parfois permettre de peut-être vaincre quelques préjugés sur la notion d'une plus grande liberté en matière de sexualité et de sentiments.
Alors, il nous reste quelques minutes pour conclure, Arthur Vernon, Isabelle Brouet. Je crois que de toute façon, la société évolue énormément. On a de plus en plus des gens comme Nicolas hein, qui ont été mariés, qui finalement se retrouvent un peu célibataires et ont éventuellement plusieurs histoires parallèles. C'est un petit peu quand même dans l'air du temps, le polyamour finalement.
Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ressentent très bien ce problème de désir qu'ils ont et qui sont confrontées à une frustration terrible du fait que généralement la plupart des personnes sont en couple et ne se posent pas 50 000 questions comme là on était en train de le faire aujourd'hui. Donc je pense que ce sont effectivement des questions qui interpellent. Et je pense que c'est vraiment le moment dans la société actuelle d'essayer justement d'apporter quelques solutions, quelques réponses. Et c'est formidable. Effectivement, le film Lutine d'Isabelle Brouet va totalement dans cette direction. Mais il faut savoir que malheureusement, ce film, comme celui de Jérôme Soubéran, Ceci est mon corps, qui lui aussi avait un message similaire, ce sont encore des films qui sont généralement des petite production qui ne touche pas le grand public, qu'on ne va pas voir bizarrement sur les grands médias, sur les grandes chaînes, ni dans les grands réseaux de distribution de cinéma.
Mais si, on regardait sur Sud Radio, on a parlé de Lutine, on a parlé de Ceci,
oui, mais parce que vous êtes formidable et que justement vous ouvrez cette porte, vous êtes à peu près la seule dans le paysage audiovisuel et médiatique français à le faire. Parce que sinon, c'est ce genre de message ne peut pas passer auprès du grand public. Il y a une espèce de petit microcosme qui se connaît un petit peu et qui partage sur ces sujets. Mais essayer de faire passer ce message auprès du grand public, simplement pour qu'il puisse au moins ne serait-ce qu'y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, généralement, on ne réfléchit absolument pas à cette question. On tient cette fidélité comme étant quelque chose de normal, naturel et d'acquise. Et en conséquence, on vit généralement dans la frustration. Et donc, quand vous dites que vous sentez que les choses évoluent, je vous dirais, regardez les médias et vous allez voir que c'est extrêmement triste, les messages généraux qu'on fait passer sur le sujet.
Oui,
donc,
mais
c'est important de... Voilà,
mais vous savez, moi j'ai tendance à dire que les médias, c'est comme les politiques, ils attrapent le train en marche. Hein, c'est toujours les gens, la vie qui fait que les choses bougent et que les choses avancent.
Mais on croise les doigts. Mais...
Et moi, je suis tous les jours en train d'écouter, j'allais dire, la vie, enfin les gens, et je sens bien depuis des années. Moi, j'ai commencé à répondre à des questions de sexo à l'époque du Minitel. Alors, vous voyez, ouais. j'ai un peu d'expérience et je vois bien que les gens sont beaucoup plus ouverts à ces questions de fidélité, infidélité. Moi, j'ai même écrit, je crois, un jour que pour moi, l'infidélité était un des derniers tabous qu'il fallait absolument faire tomber. Donc, vous voyez qu'on n'est pas si étrangers l'un à l'autre, Arthur Vernon, Isabelle Brouet. Il nous reste à donner le coup de cœur à l'auditeur qu'on a préféré. Moi, je pense que sans hésiter, c'est Kiwi hein, qui va recevoir notre petit coup de cœur et un petit livre dédicacé. Ça me paraît évident, non ?
Je valide totalement.
Oui, j'imagine.
Avec
vous aussi,
plaisir. En plus,
Isabelle.
C'est une femme et voilà, moi, je suis féministe aussi parce que la polyamorie est aussi quelque chose qui arrive par les femmes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui dit chaque partenaire a les mêmes droits. Et tout à l'heure, vous parliez de polygamie. Non, c'est pas de la polygamie.
C'était provocateur.
Voilà,
c'était
donc
évidemment
non.
Provocateur. Vous l'aviez bien remarqué. Bon, donc c'est Kiwi qui a notre coup de cœur aujourd'hui. Et puis, il me reste à vous annoncer le sujet qu'on abordera demain. Ce sera peut-être un petit peu polémique aussi. Est-ce que l'amitié, c'est une forme d'amour ? L'amitié, une forme d'amour ? Bon, pour certains, oui. Alors là, encore une fois, on fait souvent la différence entre l'amour et l'amitié. Hein. C'est une histoire de sexe. Hein. on n'en sort pas finalement, Arthur Vernon, en trois secondes.
Bah, tout dépend l'amitié entre qui et qui. Effectivement, si c'est l'amitié entre un homme et une femme qui pourrait avoir une attirance sexuelle, je pense qu'effectivement, ça peut très vite déboucher l'un sur l'autre. Même si le discours est souvent très opposé.
Plutôt l'un dans l'autre, hein, semble-t-il.
Vous avez raison.
On en parle demain.
Brigitte Lahaie, Sud Radio.